La foire Alternabio 2016, c'est le dimanche 3 avril à Saint-Affrique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Saint-Afrique. Nous sommes à la salle des fêtes de Saint-Afrique en direct pour une émission spéciale, 12e foire aux produits biologiques, énergie alternative et habitat écologique Alternabio 2016. Une heure d'émission spéciale consacrée à la bio, au bio dans toutes ses formes, dans tous ses aspects, avec de nombreux invités aujourd'hui autour de notre plateau qui nous ont fait le plaisir de venir. J'accueille pour l'instant Marie-Hélène Valentin du GAEC au fil des saisons, administratrice de l'APABA, l'association des producteurs bio de l'Aveyron. Yannick Ferraudet, bénévole pour Alternabio et l'un des créateurs de la Biocoop, un pionnier du mouvement bio en Sud-Aveyron. Et Isabelle Gaillard, gérante de la Biocoop de Saint-Afrique actuelle et membre également de l'organisation de la foire. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et bonjour.
Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est Alternabio, pour rappeler ?
Alors, Alternabio, comme vous l'avez dit, là, c'est la foire alternative et biologique. Enfin, c'est... Donc, elle a été créée de mémoire en 2003. On est aujourd'hui à la 12e édition. C'est parce que l'année dernière, il y a eu un temps de pause. C'est ça. Ça a été créé initialement sur une idée qui vient de notamment une personne qui s'appelle Bernard Verdier, qui a souhaité créer cette foire pour faire connaître les produits bio, les producteurs, les bio, et puis aussi les produits alternatifs, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'habitat, et ainsi de suite. Voilà.
Pourquoi en faire un salon spécifiquement en Sud-Aveyron ? Il en existe à Lyon, à Nancy, on pense à la foire Prime Vert. Pourquoi en Sud-Aveyron ?
Ah, parce qu'on est dans le Sud-Aveyron, qu'on est à Saint-Afrique. On en voulait une à Saint-Afrique. À l'époque, il y en avait une, bon, qui a toujours d'ailleurs, à l'origine, c'était à Rabastens, maintenant c'est à Gaillac. Il y avait celle de Villeneuve-sur-Lot. Il y a eu aussi la foire de Gignac. Et bon, Gignac, il n'existe plus aujourd'hui. Et donc, on s'est dit, on en fait une à Saint-Afrique, et voilà.
Alors, le bio, les bio, alors peut-être préciser, Marie-Hélène, Isabelle Gaillard, pardon.
Oui, c'est ça. Oui, il y a peut-être un vivier aussi dans le sud Aveyron qui fait qu'il y a eu des individus qui ont porté cette idée et qui l'ont mise en place, donc il y a maintenant 13 ans.
13 ans déjà.
Alors un vivier, oui, c'est bon, personnellement, bon, c'est là, je suis arrivé à Saint-Afrique dans les années 80, j'étais déjà militant écolo, pro-bio et tout ça, et donc on s'est assez rapidement reconnu et rassemblé, mais enfin c'était, il n'y avait pas le nombre de le vivier qu'il y a aujourd'hui, quoi. Ça, c'est vrai qu'au tout début, on parle, bon, l'histoire de Biocoop, par exemple, au tout début, c'était une quinzaine de familles, on se réunissait pour essayer de trouver des produits bio en commun. Donc alors aujourd'hui, c'est vrai, je pense des producteurs bio, par exemple sur le marché, pendant longtemps, les maraîchers bio, il y en a eu 2-3. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Hein. C'est vrai qu'on... Enfin, c'était déjà un vivier, mais voilà, ça l'est devenu encore plus.
Marie-Hélène Valentin, vous êtes productrice bio, justement, en Aveyron, membre de l'APABA, comme je l'ai dit juste avant. Qu'est-ce que c'est, cette association ?
Alors, l'APABA, c'est un regroupement de producteurs bio, justement, qui le promouvoit sur le département de l'Aveyron. Donc, ils se sont regroupés pour... disons que c'était déjà très disséminé sur le département, et pour mieux se faire entendre, et aussi avoir... entre eux, un encouragement, trouver un point d'appui, un encouragement, parce que c'est pas difficile, c'est très difficile au contraire quand on est seul dans un coin, qu'on est que deux ou trois, et que les gens qui sont autour de vous travaillent tout à fait différemment. Donc c'est une grande nécessité de pouvoir échanger.
On est isolé aujourd'hui quand on est producteur bio en Aveyron ?
Oh, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec il y a 30 ans d'aujourd'hui. Déjà, on sort beaucoup plus facilement et on échange plus facilement entre nous. On échange sur nos expériences. Et c'est surtout, je dirais, ce qui vient en appui et qui est très important, c'est le consommateur, qui fait le lien entre nous.
Très bien. On va peut-être rappeler quand même pour les auditeurs, auditrices, ça veut dire quoi bio, pour résumer, biologique. Qu'est-ce que c'est biologique ?
Ah, il y a la désignation officielle. La désignation officielle, c'est sans engrais chimiques de synthèse, ni à le genre. Enfin, la définition exacte, enfin, c'est ça, je ne me rappelle plus exactement du texte, mais c'est ça. Après, bio, par extension, c'est naturel, c'est biologique, c'est-à-dire que ça rentre dans le cycle de, biologique du sol, de la nature, et tout ça. Enfin, voilà.
Très bien. On va tout de suite reprendre nos esprits avec une petite chanson. Pascal Parizeau, « Mes parents sont bio ».
Mes parents sont bio, 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 ne mangent que du bio, 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 ne boivent que du bio, 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 ne jurent que par bio. Chez nous, tout est bio, 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 le sel, il est bio, 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 la poêle, elle est bio, 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 y'a rien qui est pas bio. Mon père, c'est bioman, et ma mère, ben, c'est sa femme. Ensemble, ils sont bio, 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 bio. Seulement voilà, en plus de ça, ils cuisinent tout à la vapeur. Y'a même plus un morceau de beurre. Et moi, je rêve d'un hamburger. Mais mes parents sont bio, 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 n'achètent que du bio, 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 ne parlent que de bio, 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 ne prient que pour bio. Leurs amis sont bio, 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 quand ils se voient bio, 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 c'est à celui qui bio, 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 sera le plus bio. Mon père c'est
bioman,
marié à biowoman. Ensemble ils sont bio, 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 bio. On mange des blettes ou bien des bêtes,
c'est la même chose.
Soit disant que c'est plein de vitamines, moi j'irais bien en prendre ailleurs. Par exemple dans un hamburger. Mais à la maison, bio, 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 même les rats sont bio, 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 même les claques sont bio, 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 tout le monde il est 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 bio.
Pascal Parizeau, mes parents sont bio. Vous êtes sur Radio Sainte-Afrique en direct de la salle des fêtes de Sainte-Afrique pour la 12e foire Alterna Bio. Après avoir expliqué d'où ça vient Alterna Bio, peut-être expliquer tout simplement, on en est où du bio en Aveyron ? Ça représente quoi ? C'est qui ? Peut-être Isabelle, quelques éléments, ou Marie-Hélène ?
Moi, je n'ai pas de chiffres en tête, forcément, mais ce qu'on disait hors antenne, là, c'est que le bio aujourd'hui, c'est... moi qui suis depuis peu dans la profession, on va dire jusqu'à présent j'étais consommatrice, c'est quand même beaucoup d'acteurs. Il me semble beaucoup plus qu'effectivement il y a quelques années. C'est de plus en plus de producteurs, c'est de plus en plus de consommateurs, donc de gens qui se posent la question de comment ils se nourrissent. Et puis c'est aussi des réseaux de distribution comme Biocoop. On est super organisés pour pouvoir justement faire rencontrer les producteurs et les consommateurs.
Et au niveau des producteurs, on en est à peu près où peut-être, Marie-Hélène Valentin, vous qui êtes dans la partie production maraîchère bio?
Alors dans la production maraîchère, sur le sud d'Aveyron, notamment autour de Sainte-Afrique, je dirais, si on peut appeler, il y a eu une petite explosion de maraîchers. Donc on a aussi la chance d'avoir sur Sainte-Afrique la possibilité de faire un BPREA spécifiquement dans ce domaine.
Production à Cazotte.
Voilà. Et donc du coup, il y a une motivation qui est grandissante. Il y a peut-être moins besoin de surface, donc ça peut s'expliquer par ça aussi.
Est-ce que cette explosion, c'est on passe de 2 à 10, c'est quels ordres de grandeur? On a combien de maraîchers bio, par exemple, sur le marché à Saint-Affrique.
C'est ça, cet ordre de grandeur, c'est tout à fait ça. Comme disait Yannick tout à l'heure, il y a 20-30 ans, il y avait 2-3 maraîchers. Aujourd'hui, on est 10-12 sur Saint-Affrique. Ce qui, justement, à la PABA, fait dire qu'il faut essayer de trouver des débouchés ailleurs pour ces jeunes qui s'installent. Donc, il y a des systèmes, enfin, il y a des possibilités d'aller cantine, il y a, via les biocoop qui sont bien organisés aujourd'hui. Il faut vraiment le développer parce qu'on sent encore que ça ne va pas s'arrêter là. Et donc, il faut commencer à anticiper un petit peu la suite.
Alors justement, l'un des problèmes que ça pose, c'est que comme ça explose, ça change le bio. Et on n'a plus une situation unique de bio, on a plusieurs formes de bio. On va écouter tout de suite une petite interview avec Philippe Piard, qui fait partie de l'association Nature et Progrès en Aveyron. Nature et Progrès qui est un peu un paradoxe dans le bio. D'abord, écoutons-le pour qu'il nous explique de quoi il s'agit.
C'est la première association en France de l'agriculture biologique, hein, disons-le carrément comme ça, puisque l'association s'est créée en 1964. À part le mouvement biodynamique qui existait déjà, il n'y avait pas d'association en France qui s'occupait de l'agriculture biologique. C'est né d'un refus des pesticides et de la chimie qui prenait un gros essor après la Seconde Guerre mondiale. Et la différence, c'est que c'est un mouvement de citoyens, c'est-à-dire de gens qui voulaient produire, donc des producteurs, des transformateurs et aussi des consommateurs qui voulaient avoir quelque chose de sain dans leur assiette. Donc depuis le départ, le slogan de Nature et Progrès, c'était « Pour notre santé et celle de la Terre ».
Qu'est-ce que ça vient faire en Aveyron, Nature et Progrès ?
Il y a eu l'avènement, puisque Nature et Progrès s'est battu donc pendant 20 ans pour la reconnaissance officielle de la bio. Et dans les années 80, début des années 90, ça a été reconnu officiellement. Donc il y a eu une grosse hémorragie des paysans qui, en 1991, à Nature et Progrès, il y avait 50% des paysans qui étaient sous mention Nature et Progrès. Et beaucoup de ces paysans-là sont partis vers l'agriculture biologique parce que ben, rapidement il y a eu les aides à la conversion, donc il y avait une possibilité de toucher des subventions, il y avait une reconnaissance officielle, donc il y a eu une grosse hémorragie qui s'est faite à ce moment-là.
On parle du label AB, hein.
Voilà, donc un gros départ des paysans qui étaient sous mention Nature et Progrès vers le label AB. Donc ça a été un peu difficile pour la Fédération Nature et Progrès de résister à cette hémorragie-là. Et puis progressivement, ben, on s'est aperçu ce que disaient les paysans Nature et Progrès qui restaient militants et fermes sur leur position, que le fait de se faire reprendre la main sur l'agriculture biologique et fait que on allait avoir des dérives parce qu'on n'allait plus être maître ni des cahiers des charges ni des modes de production et donc du coup Nature et Progrès, nous on a décidé de garder nos cahiers des charges et aujourd'hui ben, ça crée un appel parce qu'on a des cahiers des charges qui sont différents de ceux de l'agriculture biologique, qui sont en général quasiment pour tous bien plus exigeants, et on a une autre force qui est très importante à Nature et Progrès, c'est qu'on a un contrôle citoyen, c'est-à-dire que on a refusé le contrôle par certification par tiers. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit une entreprise, qui soit Bureau Veritas, qui fait aussi bien du contrôle automobile que la certification AB. On ne voulait pas de ces gens-là. On voulait que nous travaillions... On fait à manger pour les citoyens, et on voulait que ce soit les citoyens qui se prennent en charge la certification des produits. Donc aujourd'hui, eh bien, la mention Nature et Progrès est donnée par des citoyens, qu'ils soient paysans, qu'ils soient transformateurs ou qu'ils soient consommateurs.
Pourquoi ça ne suffit pas le label AB ? Parce que plein de produits sont bio aujourd'hui. C'est quoi qui change ?
En fait, sous mention AB, on peut trouver de tout. Moi, j'ai des super potes qui se produisent super bien sous certification agriculture biologique. Mais on peut aussi trouver des tomates qui viennent d'Almeria, produites sous serre, certifiées par Ecocert en agriculture biologique, dans des conditions effroyables, avec des gens qui sont même à peine payés, qui vivent dans des conditions lamentables. On peut aussi bien avoir des céréaliers sur 400 hectares d'un seul tenant, sans arbres, sans haies, dans le centre de la France. Mais pas Nature et Progrès, voilà.
Et ici, en Aveyron, le bio, est-ce qu'il a aussi ses dérives ?
Je pense qu'on trouvera de tout. Je pense qu'il y a des gens qui sont passés en bio par opportunisme, parce qu'il y a les primes, toujours, il y a la certification. Il y a des aides sur les piliers de la PAC. Donc, voilà, ça attire du monde. Personnellement, je vais dire toujours tant mieux. Je préfère un paysan, même qui travaille d'une façon assez conventionnelle en bio, que quelqu'un qui travaille en conventionnellement en chimie. Donc c'est clair. Après, dans les gens qui passent par opportunisme en bio, en Aveyron comme partout ailleurs, il y a des gens qui ne retourneront pas en conventionnel parce que ils vont découvrir d'autres pratiques agricoles. Notre façon de considérer les troupeaux, etc., de gérer leur élevage, gérer leur production de céréales, etc. Et donc, souvent, beaucoup ne font pas de retour en arrière. Alors que la démarche Nature et Progrès, c'est vraiment une démarche militante. On l'a fait vraiment par choix pour se démarquer justement d'une agriculture bio éventuellement assez conventionnelle, avec des gens qui vont vraiment apporter un plus dans leur production. Et puis aussi l'envie d'être un contrôle citoyen, d'avoir une démarche citoyenne. Ben, on parle toujours des démocraties participatives, d'horizontalité. Ben, c'est ce que permet le système participatif de garantie de Nature et Progrès, c'est qu'ensemble, on certifie, ensemble, on décide de ce que l'on a envie de manger et de la façon dont on a envie de le voir produit.
Philippe Piard de Nature et Progrès Aveyron, enregistrement tout à l'heure du repas, nous a rejoint sur le plateau Jacques Alvergne, membre de l'organisation de la foire Alterna Bio et également consommateur bio. Mais avant de vous donner la parole, je voulais vous donner la parole à Yannick Ferraudet. Vous parliez de paradoxe Nature et Progrès, pourquoi ?
Oui, alors j'ai écouté attentivement là, ce que disait Philippe Piard. Bon, j'ai peut-être un peu plus d'ancienneté que lui dans le bio, donc par rapport à l'origine et l'historique de l'évolution de Nature et Progrès, je me ferai des petites nuances, mais enfin bon, c'est pas un problème ça. Par exemple, le paradoxe, c'est qu'en fait, Nature et Progrès est l'association, je dis bien est l'association, qui s'est battue et qui, quelque part, a créé les premières certifications bio. Pour que le terme déjà biologique soit protégé et ne soit pas galvaudé. Ça. Et donc c'est Nature et Progrès, c'est par un combat de Nature et Progrès dans les années 80 qu'on a abouti à la première certification qui s'appelait pas encore AB, enfin exactement, mais et qui à l'époque certifiait des cahiers des charges. Et Nature et Progrès a été la première association, avec après les biodynamistes de Déméter, à avoir les premiers cahiers des charges certifiés bio. Après, la certification a évolué et après c'était plus les cahiers des charges qu'on certifiait, mais les producteurs, les transformateurs, ainsi de suite. Et donc autant Nature et Progrès dans sa propre histoire et autant la certification dans sa propre histoire ont évolué avec le temps, à un point qu'à un moment, Nature et Progrès est venu dans une dynamique où ils ont refusé la certification. Parce que effectivement, et à juste titre, cette certification avait fait des concessions sur certains critères du cahier des charges.
Question sociale notamment.
Concessions qualitatives quant à l'exploitation agricole, d'accord, les techniques de production, de transformation, tout ça. Il y a eu Nature et Progrès sur son propre cahier des charges, a rajouté par la suite effectivement des critères sociaux, des critères d'agriculture locale, des critères écologiques de gestion, enfin tout ça, enfin voilà. Mais ce que j'appelle le paradoxe, moi, c'est que Nature et Progrès est l'association qui s'est battu pour créer une certification et puis aujourd'hui se bat plutôt pour boycotter la certification.
Alors j'aimais pas
de jugement. C'est le paradoxe. Et en fait, ce paradoxe est révélateur d'une évolution de l'agriculture bio dans son histoire depuis dans les 30 ans qui viennent. Et cette évolution est venue aussi avec son extension, son agrandissement. Voilà.
Une évolution qu'on voit au niveau des consommateurs aussi, Jacques Alvergne, vous qui consommez bio et puis qui participez à l'organisation de cet événement, vous nous parliez tout à l'heure du problème de devenir un bio aussi élitiste quelque part, puisqu'on le rappelle, le bio reste réservé pour l'instant à une frange de la population largement minoritaire, hein. La majorité de la population ne mange pas bio.
Disons que le bio n'est pas réservé à une frange de la population. Pour l'instant, le bio n'est pas consommé par une majorité de la population. C'est un constat, simplement. Quoi. Après, je crois que Philippe Piard l'a dit tout à l'heure, hein, il a bien dit que Nature et Progrès étaient dans une démarche militante. C'est une excellente chose. Je crois qu'on a besoin de gens qui sont militants, qui font avancer, qui défendent une éthique, qui ont un certain nombre de valeurs qu'ils mettent en avant. Après, on peut s'interroger aujourd'hui, ça me semble légitime, sur comment on peut pratiquer pour que les choses changent de manière notable, très notable et majoritaire au niveau de l'ensemble de la population qui consomme. Comment on peut faire en sorte que la population française devienne majoritairement des consommateurs de produits bio ? Est-ce que c'est uniquement en travaillant sur une bio de conscience, une bio qui va s'avérer être relativement élitiste, parce qu'elle est essentiellement militante, on ne peut pas demander à tous les agriculteurs d'être militants en plus d'être agriculteurs. Hein. Certains peuvent l'être, d'autres ne portent pas ça dans leur gène. Hein. Mais par contre, il serait quand même intéressant que la majorité des agriculteurs français deviennent producteurs bio. Comment on s'y prend ? Comment on fait ? Quel est le cahier des charges qui correspond à ça ? De façon à ce que, en parallèle, en face de ça, on ait une majorité de la consommation qui se fasse en bio, que les consommateurs deviennent majoritairement des consommateurs de produits bio, dans leur intérêt à eux. On n'est pas sur des on ne défend pas des notions de qualité gustative des produits. On est sur de la santé humaine.
Hein, oui, puisque le bio, c'est sans pesticides, sans fongicides.
Voilà. Hein, c'est à la base. A priori, sur cette base-là, c'est bon pour tout le monde. On connaît les dangers des pesticides, de la chimie, etc. Donc, se passer de ces produits-là dans son alimentation, je ne vois pas comment on pourrait penser que ça soit néfaste à qui que ce soit. Quoi. On ne peut avoir comme objectif que de le généraliser. Quoi. Alors, après, quels sont les cahiers des charges qui peuvent correspondre à ça ?
Oui, parce que...
Quelle est la reconnaissance que peuvent avoir les consommateurs de ces produits-là ? C'est une question essentielle. Quoi. On a le logo AB qui est porté sur un produit, on sait à quoi on a affaire. Alors qu'on puisse discuter sur le niveau de performance de l'agriculture biologique telle qu'elle est définie aujourd'hui, ça reste discutable et je suis prêt à en discuter avec n'importe qui. Moi, je ne vais pas défendre le cahier des charges actuel. Quoi, hein. Mais il est ce qu'il est. Il est surtout reconnu et connu par tout le monde.
Oui, mais en même temps, on a une dynamique où, par la certification aussi, on voit que ça peut aussi évoluer. Et c'est une bataille pour maintenir les critères AB du bio en France, mais aussi avec les critères européens, pour les élargir justement, les assouplir et quelque part faire rentrer de plus en plus d'activités qui sont un peu plus ou un peu moins bio dans le grand bio. Et on a aussi la dynamique en Midi-Pyrénées qui veut être la première région bio et qui veut passer des grandes cultures en bio. Moi, je voudrais vous interroger, Marie-Anne Valentin, sur vous qui êtes dans la production, comment vous envisagez cette question de voilà, les différentes certifications avec les producteurs. Donc, vous faites partie de l'APABA, l'association des producteurs bio de l'Aveyron. Est-ce que vous aussi vous posez ces questions sur rendre accessible en même temps un cahier des charges plus juste ? Comment ça se passe ?
Disons que le cahier des charges, nous, on a déjà connu une évolution quand l'Europe est arrivée, donc ça s'est assoupli. Quand on est convaincu, on ne l'a pas forcément bien vécu, je veux dire. Mais je suis d'accord avec ce que dit Jacques, si on veut toucher une plus grande partie de la population, on va être obligé de le faire différemment. Ce qui ne veut pas dire de le faire de manière fausse. Mais... du coup, il faut aussi un temps d'adaptation pour les producteurs, parce que c'est pas si évident que ça. Il faut cheminer et il faut arriver à s'adapter à ces productions, à ces systèmes-là. Mais il est vrai qu'on se rend compte que de plus en plus de producteurs se posent la question, osent faire le pas, même s'ils y vont doucement. Et donc l'APABA est là, justement, pour les accompagner. Et il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Et je pense que la santé des gens, c'est la priorité dans tout ça, et qui fait que y a une réaction positive.
Votre but, c'est que de plus en plus de producteurs soient certifiés, ou que de plus en plus de producteurs pratiquent une agriculture bio, certifiée ou pas, parce qu'il y en a aussi qui refusent maintenant d'être certifiés et qui n'utilisent pourtant pas de pesticides.
Oui, mais la certification reste quand même, comme disait Jacques, le logo, à quelque part, le consommateur, quand il le voit, il sait. Enfin, si on ne passe pas par là, on ne peut pas savoir. Si on va sur un marché, n'importe quel consommateur, dès qu'il voit le logo, sait exactement où il va. Donc, s'en éloigner, je pense que ce serait une erreur. La certification, il faut continuer, effectivement. Dans ce sens.
Yannick Ferraudet ?
Oui, une précision que je voulais apporter, c'est que la certification, c'est le minimum légal, hein, qui apporte une garantie légale aux consommateurs, avec notamment des garanties d'indépendance au niveau des contrôles. Je serais nuancé par rapport à ce que disait Philippe Piard là, tout à l'heure sur le contrôle. Enfin, ça. Après, le minimum légal, c'est bien le minimum. Après, on peut aller au-delà, comme le fait par exemple Nature et Progrès, comme le font les agrobiodynamistes. On trouve la même chose par exemple au niveau de la distribution bio. Dans les distributeurs bio, notamment la grande distribution, on va s'en tenir à la certification minimum légale. Bon, si on prend le réseau Biocoop, on s'en tient à la certification minimum légale, mais en même temps, on va bien au-delà. On se pose à soi-même des contraintes qui sont autres. Et voilà. Et notamment, une précision que je voulais dire tout à l'heure, quand tu disais, il faut savoir que la certification AB, légalement, n'existe plus. Aujourd'hui, depuis 2009, il n'y a que la certification européenne. Mais ce qui se passe, c'est qu'en France, il y a encore beaucoup de producteurs, transformateurs qui travaillaient sous la certification AB, qui n'ont rien changé de leur technique, de leurs exigences, mais qui gardent la certification et qui sont aujourd'hui à la certification minimale européenne, puisque c'est celle qui a valeur légale, mais qui n'ont rien changé sur leurs exigences qui vont au-delà. Et Nature et Progrès va encore au-delà aussi. Enfin, ouais.
Ça veut dire que si on voit un logo AB aujourd'hui sur un produit, il n'a plus de valeur ou...
Et vous ne le trouvez plus, de toute façon, le logo AB, sauf sur des anciennes étiquettes qui
n'ont pas été mises à jour.
Voilà, c'est ça, oui. Là, aujourd'hui, le logo officiel, c'est l'épi de blé, le logo de l'Europe.
Jacques Alvergne ?
Oui, c'est la feuille étoilée,
voilà, la feuille étoilée,
mais qui peut être doublée par le logo AB. Je crois que c'est encore autorisé d'avoir les deux, pour que le consommateur s'y retrouve. Non, ce que je voulais rajouter, c'est que la certification, c'est le droit. Hein. Le droit, c'est quoi ? Benjamin Souris, le conférencier de ce matin, le rappelait. Le droit, c'est l'expression d'un pouvoir à un moment donné. Hein. Ça ne veut pas dire, vous disiez vous-même tout à l'heure que on allait, avec l'évolution de cette réglementation de la certification, on allait vers des assouplissements, etc. C'est pas dans la nature nécessairement d'une évolution d'une législation d'aller vers une simplification, vers un adoucissement des choses. Hein. On a plein d'exemples au niveau européen où on va vers des durcissements et non pas, je donnerai pas d'exemple, mais tout le monde en a dans sa tête. Si ça va dans ce sens-là, c'est parce qu'il y a des pouvoirs qui s'expriment dans ce sens. À l'ensemble des producteurs bio de s'exprimer, de faire en sorte que la législation devienne ce que... et d'exprimer leur pouvoir, d'exercer leur pouvoir pour que la législation devienne ce qu'ils souhaitent qu'elle soit. Et je ne crois pas que ça soit la démultiplication des certifications ou des modalités de certifier du bio qui rendent service aux consommateurs, de toute façon.
Une conférence donc de Benjamin Souris dont vous évoquiez le contre-lobbying citoyen, qui, comme toutes les conférences de cette journée du 3 avril, donc Alternabio 2016, sont enregistrées par nos équipes et seront diffusées sur le site alternabio.org.
Dans les paniers bio, bons pour la planète, on voit ces ballots à côté des courgettes, des bananes, de la Martinique, du quinoa, du Mexique. Venu au mépris des émanations pour se faire bouffer chez nous en avion. C'est moi le seul écolo où j'achète à portée de vélo des jambons polyphosphates de mariner dans du nitrate fabriqué à l'Oudéac dans les usines à barbac. Pas besoin de kérosène pour les immondices que j'aime. Dans les paniers bio, si bon pour la crotte, on voit chez ballots à côté des carottes, des poulets à la mélanine, du soja cultivé en Chine, farci de produits encore plus poison que les milkshakes et les nuggets de poisson. C'est moi le seul sain de corps, je n'ai pas peur de la mort. J'ai affronté sans broncher l'amiante au collège, au lycée, dans mes biberons, dans mes bouillies, les merveilles de la chimie. J'ai pas fini dans une poubelle, c'est la sélection naturelle. panier bio, si bon pour la mine, le moindre haricot vaut le prix du platine. Il me semble qu'il n'y a pas que les légumes qui soient juteux. Si je fais ce geste pour sauver la nature, je devrais m'habiller avec les épluchures. Moi le seul équitable, je ne sers sur ma table que les productions pas chères de l'agroalimentaire. Accessible au monde entier, génétiquement modifié, c'est la magie industrielle et la diarrhée universelle. Dans les paniers bio, bons pour l'univers, on voit ces ballots à côté des choux verts, des gels douches protégeant le Népal, des compotes sauvant le Sénégal. Impaix pour détourner notre attention pendant que l'industrie leur farcit l'oignon. C'est moi le seul humaniste, à ma façon je résiste, je ne lèverai pas le petit doigt, le responsable c'est l'État et les multinationales qui nous obligent à faire du mal. Je ne fais la révolution que dans mes chansons à la con. Et je fuis ma couillon pour courir comme un fou, manger du saucisson chez Justin Ripoux.
Lucien Loup, panier bio, petite trouvaille d'internet. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sainte-Afrique, émission spéciale en direct du salon Alterna Bio 2016, le 12e du nom. Pour la suite de cette émission, petit pas de côté après la question du bio, parlons de la question des semences paysannes. C'était l'objet d'une autre conférence ce matin avec Michel Metz, administrateur du réseau Semences Paysannes et membre de l'association Pétaniel. Il nous expliquait justement d'où vient ce lien entre les semences paysannes et la question du bio.
Alors, c'est effectivement deux systèmes qui ne sont pas tout à fait jointis, enfin qui ne sont pas tout à fait joints. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de semences bio ne sont pas forcément des semences paysannes. Les semences paysannes, si vous voulez, ce sont des semences qui sont normalement produites et sélectionnées dans le champ du paysan. Hein, et donc on ne passe pas par des semenciers ou exceptionnellement. Alors c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il se trouve que la plupart des gens qui s'occupent de semences paysannes sont aussi en bio. Hein, voilà.
Quel est l'intérêt d'avoir des semences paysannes?
Les semences paysannes, elles possèdent un certain nombre de propriétés. Il y a d'abord la propriété de diversité génétique, ce qu'on appelle des variétés population. Et ça veut dire ces grandes facultés d'adaptation. Elles sont, dans la mesure où elles sont créées dans les champs des paysans, avec des champs très variables, et bien, du coup, ça utilise. Il y a une pression qui s'effectue sur cette diversité. Et après, il y a des règles d'usage, tout ça. Enfin, c'est tout un modèle, je ne sais pas s'il faut dire économique, mais c'est un modèle qui se rapproche des communs. C'est comment avoir des ensembles de gens qui gèrent une maison de semences paysannes, oui, des choses comme ça. Et en fait, c'est des modes d'organisation collective pour redevenir autonome en ce qui concerne la production des semences.
Pourquoi les paysans ne sont pas autonomes aujourd'hui?
Ah ben, pas, le moins qu'on peut dire, pas du tout. Hein, la plupart achètent l'organe. Alors, c'est vrai qu'il y a des bio qui font en partie l'organe, mais c'est surtout vrai peut-être pour les céréales. En potagère, c'est très compliqué. Il faut pouvoir se mettre à plusieurs parce qu'il y a beaucoup de variétés. Mais il y en a qui le font. Et là, il y a des choses intéressantes à gagner au niveau des maraîchages. C'est des regroupements de maraîchers qui produisent globalement de la semence pour tout le monde et qui se l'échangent après. Hein. Et on a des exemples, notamment en Bretagne, là, il y a des gens qui font ça et qui font ça très très bien. C'est très intéressant. Et on trouve, en plus, comme ils font de la sélection, en bio, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi.
Qu'est-ce que ça change une semence paysanne bio par rapport à une semence paysanne qui ne l'est pas?
Alors, je ne sais pas s'il en existe beaucoup. Là. La plupart des gens qui font des semences paysannes sont en bio. Ce n'est pas tout à fait vrai. Là. Si on peut citer par exemple le cas de l'AVEM, là, qui est une association importante de l'Aveyron. L'AVEM, c'est l'association des vétérinaires et éleveurs du Miavois, hein, qui regroupe environ 150, enfin, moi, c'est les chiffres que j'avais hein, à l'époque, hein, 150 éleveurs. Hein. Ils ont salarié un vétérinaire, l'association a salarié un vétérinaire et aussi une personne qui était ingénieur à l'INRA et qui s'occupe du programme de production et de sélection de semences fourragères pour la nourriture des animaux. Mais parmi ces 150 éleveurs, moi ce que j'avais entendu, c'est qu'il n'y en avait que la moitié qui était en bio. Mais ils sont quand même dans une démarche d'autonomisation des fermes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le bio. Ça peut parfaitement se recouper, mais ce n'est pas tout à fait la même chose.
Quel est son rôle par rapport aux éleveurs?
Mais c'est mettre à disposition des éleveurs, faire en sorte que les à l'intérieur de cette maison des semences que les éleveurs disposent des semences qui leur conviennent bien. Et par exemple, des luzernes qui, au lieu de durer 2 ans comme les luzernes modernes, durent à peu près 7 ans. Hein, et qui soient capables de pousser sur les plateaux avec des conditions climatiques, non peut-être pas extrêmes, mais enfin un petit peu plus compliquées. Hein.
Avec votre réseau Semences Paysannes, il y a des batailles juridiques qui se mènent et politiques sur les brevets sur le vivant, notamment contre des firmes multinationales. On entend Monsanto, mais il y en a bien sûr d'autres. On en est de ce combat ?
Ben, on est en plein dedans, hein, si on peut dire, puisque c'est la loi biodiversité qui est en train d'être examinée actuellement. Il y a eu le premier passage au Sénat, il y a un peu plus, environ un mois et demi. Le passage à l'Assemblée nationale, c'était il y a une dizaine de jours, et ça va retourner au Sénat vers la mi-mai. Et il y a notamment un des gros sujets, c'est celui effectivement du brevetage du vivant via ce qu'on appelle les traits natifs. Alors, ça mérite peut-être d'être tout un petit peu expliqué. Par exemple, si on est capable de relier un gène particulier qui donne à une salade la possibilité de résister à un puceron, hein, c'est une séquence génétique ou une information génétique reliée à une fonction. Et ça, c'est brevetable. Hein. Et ça s'étend à toutes les plantes. Normalement, ça s'étend à toutes les plantes qui portent ce trait. Alors, on parle de trait natif parce que ce sont des choses qui existent, qui peuvent exister à l'état naturel. Hein. Ces traits natifs, actuellement, dans les premiers passages, il y a une partie de ces traits natifs, on pense qu'on va gagner la bataille, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas brevetables. Mais via les nouvelles technologies, parce que ça aussi, il faut en parler, c'est quelque chose de très important, les nouvelles technologies de modification génétique, et notamment tout ce qu'on appelle les mutagénèses dirigées, enfin, j'ai pas trop le temps de développer, on peut breveter des traits natifs en passant par l'intermédiaire de ces procédés-là, et il y a vraiment le risque de brevetage de tout le vivant naturel. Donc c'est une grosse bataille actuellement. Les firmes sont extrêmement vigilantes par rapport à ça et elles veulent absolument que, comme ce sont des OGM, ces choses-là, elles veulent absolument faire en sorte que ça sorte de la réglementation OGM. Et en France, on a le grand champion Limagrain qui fait tout ce qu'il peut pour effectivement qu'elle soit comme ça.
Comment on va pouvoir gagner cette bataille ?
C'est très difficile, hein. C'est toujours le pot de fer contre le pot de terre. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils vont essayer de faire passer en douce, disons, des OGM qui sont des OGM cachés. Et c'est à nous, la société civile, les activistes et tout ça, de dire aux gens, non, ils vous mentent, ils vous cachent des choses. En fait, on a une bataille de communication à gagner de ce point de vue-là. On l'a gagnée sur les OGM. Hein, parce que plus les gens sont au courant de ce que sont les OGM, et moins ils en veulent. Et par contre, à partir du moment où il n'y a plus de réglementation, enfin du moins que ces OGM-là sont sortis de la réglementation, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Mais c'est ce qu'on essaye de faire quand même.
Est-ce qu'on peut breveter le bio ?
Je pense qu'on peut breveter le bio comme le reste. Hein. De toute façon, avec les histoires de traits natifs, à la limite, il n'y a pas de frontières. Et le gros problème que posent ces nouvelles technologies avec ces traits natifs, c'est effectivement les problèmes notamment de contrefaçon. C'est-à-dire des paysans qui sont en bio ou pas en bio, mais qui cultivent depuis très longtemps des variétés particulières, qui possèdent ce trait natif, par exemple, de résistance à des pucerons, eh bien, il risque d'être accusé de contrefaçon. C'est pas rien. Alors, il peut être en bio, il peut très bien être en bio pour ça, quoi. C'est pas... Il n'y a pas de frontières, là.
Michel Metz, membre du réseau Semences Paysannes, administrateur de ce réseau. Retrouvez donc l'intégralité de sa conférence sur le site alternabio.org d'ici quelques jours.
Oui, pas bon pour ma santé, Monsanto. Oui, pas bon pour Monsanto, ta santé. Oui, pas bon pour ma santé, Monsanto. Why, pas bon pour Monsanto, ta santé. Ils rachètent toutes les semences de la planète qui a la prétention d'acheter la vie. Monsanto veut avoir les mains sur les manettes, nourrir l'avenir selon ses envies. Il veut contrôler le destin de l'humanité, avorter ce qui n'apporte pas de profit. Il n'a pas le souci de l'égalité, les procès lucratifs se font sans compromis. Qui de la poule ou de l'œuf a fait le premier cri? Demande à ton ami le bœuf à quoi il est nourri. Mais une bonne côtelette ne fait pas trop d'esprit, car aux OGM t'inquiète, elle doit être garantie. Oui, pas bon pour ma santé, Monsanto. Oui, pas pas bon pour mon santé ou ta santé. Why, why, pas bon pour ma santé, mon santé. Why, why, pas bon pour ma santé, ta santé. Il fait du pisse pour tuer la mauvaise herbe. Deviens agriculteur, c'est des vacances toute l'année. Avec les pesticides, tu as trouvé un bon proverbe. L'OGM résiste mieux que les petites ONG. Tu n'as rien d'autre à faire qu'asperger sa bonne graine. Pour l'industrie chimique, tu devras bien t'endetter. Y'a pas de polémique à cultiver pour Monsanto. La taxe d'écologie, Lula au Burkina Faso. Qui de la poule ou de l'œuf a fait le premier cri? Demande à ton ami le bœuf à quoi il est nourri. Mais une bonne côtelette ne fait pas trop d'esprit, car aux OGM t'inquiète, elle doit être garantie. Why, why, pas bon pour ma santé, Monsanto. Why, why, pas bon pour Monsanto, ta santé. Why, why, pas bon pour ma santé, Monsanto. Why, pas bon pour Monsanto, ta santé. Rien n'est gratuit et tout s'achète, même les famines et les disettes.
Avec les graines de toute la terre, il se proclame roi du désert.
Rien n'est gratuit et tout s'achète, même les famines et les disettes. Tu assassines cette planète dans la négresse. Rien n'est gratuit et tout s'achète, même les famines et les disettes.
Regarde ces hommes tenus en laisse, toi marchand de tristesse.
Rien n'est gratuit et tout s'achète, même les famines et les disettes.
Toi le propriétaire
des semences de la terre, qui de la poule ou de l'œuf a fait le premier cri. Demande à ton ami le bœuf à quoi il est nourri. Mais une bonne côtelette ne fait pas trop d'esprit, car aux OGM t'inquiète, elle doit être garantie. Why, why, pas bon pour ma santé, Monsanto. Why, why, pas bon pour Monsanto, ta santé. Why, why, ah bon, pour santé,
le caribou volant avec mauvaise graine. Dernière partie de cette émission spéciale Alternabio 2016 en direct de la salle des fêtes de Sainte-Afrique. Une émission spéciale donc préparée en partenariat avec le salon. Et pour cette dernière partie, abordons un peu les perspectives pour le bio après avoir fait un petit tour de l'état des lieux dans le secteur. Et une perspective, c'est ce projet qui s'appelle RBA, un projet porté par Sol Agro, une association qui travaille sur les alternatives en monde agricole et aussi en monde des énergies. Et avec nous, nous avons rejoint sur le plateau Caroline Gibert, agronome chez Solagro. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est RBA ?
Alors RBA, c'est un projet qui est porté déjà depuis quelques années à Solagro et qui a émergé là en ce tout début d'année, enfin au tout début du printemps. Donc c'est une plateforme gratuite, collaborative et en accès libre. L'idée, c'est de partager et de diffuser en fait les connaissances et les savoirs sur la lutte biologique par conservation et gestion des habitats.
Concrètement, ça s'adresse à qui ?
Alors, c'est un outil qui est destiné aux acteurs de terrain. Alors, principalement les agriculteurs et leurs conseillers agricoles, mais ça peut se destiner aussi aux enseignants, aux jardiniers, voilà.
Et c'est un site internet, comment ça marche ?
C'est un site internet et en fait il y a trois types de supports. Donc il y a un outil interactif en fait qui met en lien, pas pour un contexte pédoclimatique donné, une culture avec ses ravageurs principaux.
Pédoclimatique ?
Alors c'est en gros, c'est une zone biogéographique homogène. Voilà, et qui donc on choisit la culture. L'agriculteur, par exemple, choisit une culture, donc grande culture ou arboriculture, pommier ou autre. Il a les ravageurs principaux qui lui sont proposés, ou sinon il peut choisir en sélectionnant ceux qui l'embêtent sur sa parcelle. Et sont proposés des ennemis naturels, donc soit prédateurs, soit parasitoïdes, et les plantes à favoriser et les aménagements à faire autour de la parcelle pour lutter en fait contre ces ravageurs qui sont problématiques.
L'objectif, c'est donc de trouver des alternatives concrètes selon, oui, les situations pour ceux qui tentent de passer au bio, notamment au niveau des ravageurs. Donc, on peut penser aux ratopiers, on peut penser à
exactement.
Des espèces envahissantes.
C'est utiliser la maxime « les ennemis de mes ennemis sont mes amis » pour justement leur apporter en fait, le gîte et le couvert, donc en implantant des bandes fleuries, par exemple, qui vont apporter du nectar ou des ressources nutritives en fait, nécessaires pour les parasitoïdes, par exemple. Et qui vont contribuer par la suite à lutter contre les ravageurs.
Et les informations sont fournies par qui ?
Alors, on se base sur de la littérature alors scientifique ou technique, donc qu'on valorise et qu'on qualifie en fait en donnant une information sur la fiabilité de l'information mise à disposition.
Quel est le besoin d'information dans ce domaine ? Parce qu'on imagine quelqu'un qui veut passer au bio, il va s'y intéresser, il va trouver des références. Qu'est-ce que ça va apporter ?
Alors en fait, l'idée c'est que on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits au niveau international en fait, et beaucoup de publications sont en anglais. Donc là, l'idée c'était d'essayer de vulgariser en fait ces publications disponibles, mais qui sont un peu de la littérature grise, et les mettre à disposition en fait de l'ensemble des paysans quoi pour voilà.
Et c'est sur tout le territoire, en Aveyron ?
Alors, pour le moment, c'est la France métropolitaine, et on travaille aussi sur les dom-toms. Donc là, il y a des données qui sont rentrées actuellement sur La Réunion également. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment une plateforme collaborative. Donc en fait, elle s'incrémente petit à petit. Donc pour le moment, c'est Solagro qui contribue à l'alimenter. Mais à terme, voilà, on souhaite développer des partenariats avec différents chercheurs pour qu'ils puissent aussi valoriser leurs travaux par ce biais-là, en fait.
Un site web peut-être pour retrouver les informations là-dessus ?
Alors c'est www.rba.org.
Ah bah, H-E-R-B-E-A, et puis une conférence démonstration là tout à l'heure, juste après cette émission, donc à 15h, ce dimanche 3 avril 2016. Merci Caroline Gibert.
Merci à vous.
Dans l'espace des alternatives, on a également la Biocoop, qui d'une petite association locale est devenue un sacré réseau, avec une sacrée implantation un peu partout en France. On vous trouve même aux Allées Jean Jaurès, un beau magasin à Toulouse. On parlait tout à l'heure justement de cet effet de massification du bio. Je crois que vous y réfléchissez aussi au sein du réseau des Biocoop.
Et oui, parce que effectivement, même si on n'est pas encore à une majorité de consommateurs qui consomment bio, il y a de plus en plus de gens qui consomment bio. Et effectivement, il y a des filières à construire, et il y a le développement de la bio qui est à accompagner. Alors, il y a le volet agricole sur lequel on est présent aussi Biocoop aux côtés de groupements de producteurs. Et effectivement, les éléments de réflexion qu'on amène aujourd'hui, et les enjeux de l'avenir de notre réseau de distribution, c'est d'arriver à avoir les volumes d'approvisionnement qui correspondent aux demandes des consommateurs. Aujourd'hui, on a des produits sur lesquels on est en rupture parce qu'il n'y a pas les volumes suffisants ou il n'y a pas la régularité d'approvisionnement. Je prendrai l'exemple du lait de brebis bio. Il n'y a pas suffisamment de lait de brebis bio, au moins dans le sud d'Aveyron. Je ne sais pas si c'est un phénomène national, pour pouvoir répondre à la demande des différents magasins qui prennent du Roquefort bio, des produits, des fromages des bergers du Larzac, chez Tribala. Enfin, les acteurs de fromager bio du sud d'Aveyron sont un peu confrontés à ce manque de lait.
Il n'y a pas assez de lait bio, alors qu'il y a quand même un certain nombre de producteurs de lait de brebis, et avec Roquefort qui ont déjà des démarches de sorte de certification, on va dire, pour être dans le rayon de Roquefort, il y a des normes, et on manque de bio.
Et on manque de lait bio. Alors moi, je ne saurais pas expliquer d'où... Enfin, je ne connais pas les détails, si tu veux. Mais effectivement, on le constate en tant que distributeur. Nos fournisseurs habituels nous disent à certains moments, on ne peut plus vous fournir, on n'a plus de produits.
De l'autre côté, est-ce que vous n'allez pas vous fournir maintenant en bio on pense à cet exemple des tomates d'Espagne sous serre
Malheureux, bio. Surtout pas. Non, non, non. Alors ça, c'est effectivement une dérive possible de l'évolution peut-être d'une forme de bio contre laquelle il faut lutter, il faut être très très attentif, parce que effectivement, si on Il y a des gens qui vont se mettre au bio pour faire du business, et c'est déjà sûrement le cas. Et il faut qu'on soit très vigilants les uns et les autres à proposer d'autres modèles et d'autres organisations pour pas aller vers ces travers-là. Et le réseau Biocoop, dans lequel je suis rentrée moi il y a 4 ans, mais qui s'est construit, qui va fêter ses 30 ans cette année, depuis le début, et le réseau Biocoop, c'est au départ, c'est des militants, c'est des producteurs, c'est des gens qui étaient dans les associations.
Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui?
Voilà, et donc a déjà construit un cahier des charges qui est assez exigeant et qui priorise le local et qui travaille à la construction de filières. C'est-à-dire travailler avec les producteurs le plus possible locaux et les groupements de producteurs pour pouvoir répondre à la demande de consommateurs. Et notre cahier des charges nous interdit de proposer des produits hors saison et des produits sous serre chauffée. Et on travaille à la limitation des importations. Il y a bien des produits qu'il faut importer parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut localement, mais on est très vigilant sur ce modèle-là qui est le local et le partenariat avec le monde agricole.
On se rappelle de ce slogan, je ne sais plus qui le portait, bio et local, c'est l'idéal. C'était un peu un fer de lance que j'entendais l'an dernier.
Peut-être c'est la PABA.
C'est la PABA, voilà. Me citait bien qu'on les connaissait. Peut-être pour conclure cette émission, revenir à ce salon Alterna Bio. On n'en a pas tant parlé que ça. Un salon où on retrouve toute la journée des alternatives, des ateliers. On voit que le bio, on a pas mal parlé des questions agricoles, mais finalement le bio, ce n'est pas que aussi la consommation alimentaire. Yannick Ferraudet, est-ce que tout est devenu bio aujourd'hui? Est-ce qu'on peut trouver tout en bio?
Alors bio, c'est... Qu'est-ce qu'on définit de bio? Bio, ça veut dire c'est le vivant, la biologie. Hein, ça. Et je pense tout à l'heure, vous avez passé une chanson où il y avait ces paroles, le klaxon bio. Bon, bah oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des klaxons bio, mais non, le terme bio appliqué à klaxon, ça va pas, quoi. Klaxon, c'est pas quelque chose de vivant.
On n'a pas encore l'uranium bio.
oui, mais on a l'uranium naturel, semble-t-il. Enfin, ça, bon. Donc, aujourd'hui, c'est un peu le bio médiatique, le greenwashing, toutes ces choses-là, quoi. Bio, on l'utilise à toutes les sauces, quoi. Enfin, on trouve des maisons bio, on trouve des peintures bio, on trouve des klaxons bio, là, comme dans la chanson, des trucs comme ça. Donc, en fait, par exemple, là, si on prend l'exemple des Alterna Bio, on va trouver, bon, effectivement, des produits alimentaires bio. Hein, des bio, alors, c'est soit des produits, des matières premières de producteurs, maraîchers, agriculteurs, autres. On trouve des produits transformés, hein, des biscuits, des pâtes, j'en sais rien, qui sont bio parce qu'ils sont en relation avec le vivant, ils viennent de la matière vivante. On commence à trouver des peintures. Alors, on dit des peintures bio, mais le terme bio n'est pas correct pour peinture. C'est des peintures qui sont faites souvent avec des produits d'origine naturelle et qui, par contre, vont trouver dans leur décomposition éventuellement... Enfin, d'abord, vont pas être nocives pour l'environnement, pour la santé, ça. Et deuxièmement, qui vont trouver, au cas de fin d'utilisation, vont trouver un cycle de dégradation qui rejoint effectivement le monde bio dans la nature. Mais le terme bio sur la peinture en elle-même n'est pas correct. Parce que autant si vous mangez un produit alimentaire bio, vous ne faites pas de mal à votre santé. Si vous
mangez de la peinture,
si vous ingurgitez une peinture bio, là, ça ne va pas faire quand même à toi.
Voilà, je comprends. Justement, la question aussi du bio se pose avec la question des énergies. On parlait en blaguant du nucléaire, mais ce sera l'objet d'une conférence tout à l'heure à 16h30. Les énergies renouvelables citoyennes dans nos territoires. Avec la question de ces énergies à partir de matières bio, le vent, le solaire, et comment construire ça aussi dans le respect de l'environnement. Peut-être pour terminer cette émission, rappeler que donc on est une émission spéciale avec Alterna Bio 12e édition, donc 2016. C'est toute la journée ce dimanche 3 avril à Saint-Afrique. Vous retrouverez également sur le site d'alternabio.org les conférences que nous avons enregistré avec nos équipes toute la journée. Peut-être, un mot de conclusion. Est-ce que demain, le bio, finalement, ce sera plus une alternative, finalement? On parle de foire aux énergies, aux produits alternatifs. Est-ce que le bio, ça a vocation, finalement, à devenir un jour majoritaire?
Ah, ben ça dépend comment on le voit d'un terme militant. Moi, personnellement, oui, si tout était bio, ça serait bien, quoi. Ça serait mieux pour le monde, pour la planète. Comme disait tout à l'heure Philippe Piard, le mot d'ordre de Nature et Progrès, c'est pour votre santé et celle de la Terre. Donc c'est vrai que le bio, dans l'idéal, que ça soit partout, c'est mieux. Après, il n'y a pas que l'aspect technique de l'agriculture ou l'aspect matériel du produit. Il y a le bio par qui il est généré économiquement. Hein, donc il y a la dimension sociale, il y a les dimensions profit, tout ça. Et alors là, ça serait encore l'objet d'un autre débat.
On peut tout à fait faire l'exploitation des travailleurs en bio. Hein, ça existe aussi.
Ça existe déjà dans le bio qu'on peut trouver chez Casino, Super U ou autre.
Un dernier mot peut-être, Isabelle Gaillard ?
Oui, ben je rejoins Yannick. C'est sûr que le jour où le bio ne sera plus une démarche alternative, on aura gagné quelque chose, mais pas n'importe quel bio et pas à n'importe quel prix. Et donc restons vigilants et continuons à construire le bio qu'on souhaite pour nos enfants.
Eh bien, très bien, mais merci à vous, toute l'équipe de la foire, de nous avoir accueillis. C'était une émission spéciale de Radio Sainte-Afrique en direct. Et c'est notre premier direct, désolé pour les petits soucis techniques, depuis la foire Alternabio, depuis la salle des fêtes de Sainte-Afrique. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez vous renseigner sur la bio, vous avez jusqu'au 9 avril pour découvrir une sélection d'ouvrages à la bibliothèque intercommunale du Saint-Africain. Merci à toutes et à tous, très bonne journée à l'écoute de Radio Sainte-Afrique.
Chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille. Alors retiens ce conseil si t'es pas à Marseille. BXL, ouais c'est Bruxelles. BXL, ouais c'est Bruxelles. Avec nos potagers, on inonde les marchés. Viens accompagner car on va te faire planter. On plante des choux, est-ce que ça dit? Je fais pas le mou, ce sera les radis. Dans mon hood, on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt ont été mises dans le coup. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint nos trous. La seule limite à ta production, mec, non que c'est pas le site, c'est ton imagination. Fais donc les liens, les interconnexions. Tu vas voir tout vient, et ce à profusion. Pas de pesticides, ni engrais chimiques, non. Pas de tracteur, ici on a des bourriques. Si tu fais ta bête, ou ton petit marrant. Ici tu pousses des bêtes, et des potimarrons. Yo, c'est quoi notre quartier? C'est le potager, qu'est-ce qu'il fait kiffer? Être à Walpé.
Tout le monde t'accommode et tout le monde soit poireau. Personne qui porte, personne qui reste le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer? Être à Walpé.
Tout le monde sans cochon et tout le monde sans poney. Et même sans arbre, personne ne reste sur le côté.
TSP, mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP. Mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. TSB, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans le potable mais dans la sueur de bois. TSB, c'est le toilette sèche power. On a fait le choix de plus gaspiller ta quoi. TSB, c'est le toilette sèche power. Tu vis ça dans un coin et tu verras, ça sent même pas. Étape 1, t'arrêtes les couches et tu passes au pot. Étape 2, tu montes sur le trône, c'est déjà bien haut. Étape 3, tu t'essuies tout.